Bienvenidos a este informativo de
Paris Live with me, today's headlines.
Accent du monde sur RFI.
Nathanaël Vitran.
Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Accent du Monde, votre rendez-vous hebdomadaire pour parler de l'actualité de la semaine vue par les rédactions du Monde de Radio France Internationale. Autour de la table, j'ai le plaisir d'accueillir Lucille Gimbert de la rédaction hispanophone. Bonjour Lucille. Pisa Imam de la rédaction langue cambodgienne, bonjour.
Sosnei.
Et Silvano Mendes pour la rédaction brésilienne de RFI. Bonjour Silvano.
Bonjour.
L'actualité de la semaine encore très marquée par la situation en Catalogne. Suite au référendum du 1er octobre, le président de la région catalane, Carles Puigdemont, a déclamé l'indépendance mardi dernier, avant d'en suspendre immédiatement les effets. Une déclaration ambiguë qui plonge la Catalogne, l'Espagne et même l'Europe dans l'incertitude. Le chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, a d'ailleurs exigé que son homologue catalan clarifie sa position, menaçant de reprendre le contrôle de la région. Carles Puigdemont a multiplié aujourd'hui les consultations au palais du gouvernement catalan pour préparer sa réponse à cet ultimatum. Et ces dernières heures, Lucille Gimbert, la pression augmente sur le président catalan, en particulier de la part de ses alliés séparatistes.
Et ce n'est qu'en proclamant la République que nous serons capables de respecter ce que la majorité a exprimé dans les urnes, comprendre lors du référendum illégal du 1er octobre. C'est le message qu'a envoyé la CUP, partie des extrême gauche anti-système, à Carles Puigdemont dans une lettre publiée ce vendredi. La CUP est un allié clé pour le président catalan. Sans elle, il perd sa majorité au Parlement régional. Même ligne du côté de l'ANC. L'ANC, c'est l'Assemblée nationale catalane, une association au fort pouvoir de mobilisation dans les rues. Cette ligne, c'est le gouvernement central refuse le dialogue, alors levons la suspension de la déclaration d'indépendance. Enfin, troisième son de cloche, dans ce même sens, le vice-président catalan, Oriol Junqueras, leader de la gauche républicaine de Catalogne, parti traditionnellement indépendantiste, vient de se dire prêt à assumer le risque de la liberté.
Et même s'il a beaucoup consulté aujourd'hui, il ne faut pas s'attendre à de déclarations du président catalan avant lundi matin.
Non, lundi, et c'est-à-dire à l'issue de ce délai de 5 jours que lui a donné Madrid. La question du gouvernement Rajoy est simple. Avez-vous, oui ou non, déclaré l'indépendance? De la réponse de Puigdemont dépend l'activation par Madrid de ce fameux article 155 de la Constitution, un article qui permettrait au pouvoir central de prendre le contrôle de certains services publics catalans.
Une perspective que semble craindre le PDCAT, le parti de Puigdemont, qui lui aussi fait pression sur le leader catalan.
Oui, et là c'est toute la difficulté pour Puigdemont. Il est entre la espada et la pared, entre l'épée et le mur, c'est comme ça qu'on dit en espagnol. Lui-même est un indépendantiste de longue date, mais sa formation, le PDCAT, est un parti de droite traditionnellement soutenu par la bourgeoisie catalane. Et cette bourgeoisie craint notamment les conséquences économiques d'une éventuelle séparation. Et puis une partie du PDCAT avait déjà en début de semaine fait pression sur Puigdemont pour qu'il ne déclare pas l'indépendance de manière unilatérale. Enfin, Puigdemont doit penser à la rue. L'opinion publique catalane est divisée. Beaucoup d'indépendantistes ont été déçus par son jeu mardi. Je déclare l'indépendance, puis je dément. S'il renonce ou si Madrid enclenche l'article 155, ces Catalans pourraient à nouveau descendre dans la rue avec tous les risques de violence que cela comporte. Réponse donc lundi 10h.
Vous avez aussi suivi ce sujet au sein de la rédaction cambodgienne, Pisa Imam, et vous vous êtes demandé si cette crise à laquelle on est en train d'assister était prévisible.
Oui, au regard de l'histoire, la République Catalogne s'est déjà proclamée 4 fois depuis le XVIIe siècle. Mais le sentiment de souverainisme n'a jamais été aussi fort suite à la crise économique en 2008, car au-delà de l'aspect linguistique et culturel, la Catalogne ne veut plus payer la facture pour les autres régions espagnoles. Donc, certes, la Catalogne est la région la plus riche de l'Espagne, mais c'est aussi la région la plus endettée du pays. Dans ce temps de crise, les dirigeants catalans veulent se débarrasser de l'obligation de solidarité nationale qui pèse sur le budget.
Alors jusque-là, il s'agissait d'un débat institutionnel, mais à partir de 2011, ce débat pour l'indépendance, il a gagné aussi la masse populaire.
Oui, en effet, c'est à partir de 2011 que les mouvements populaires catalans s'imposent dans le débat souverainiste en prenant plusieurs initiatives, notamment l'appel à des obéissances civiles et fiscales envers le pouvoir de Madrid, la création de territoires libres catalans et surtout la création de la puissante association l'ANC. Donc c'est d'ailleurs l'association ANC qui est un des piliers très importants dans l'organisation du référendum du 1er octobre.
Malgré la présence de plus en plus présente de ces mouvements indépendantistes, le gouvernement espagnol ne semble pas prêt à poser les bases d'une réconciliation, Pisay.
Oui, en effet, c'est comme si Madrid refuse d'admettre que l'Espagne est pluraliste. Cette ligne dure de Madrid ne fait que radicaliser le sentiment pro-indépendant chez les gens. Et il est clair que Madrid aurait dû s'engager dans la voie de réformes nécessaires depuis très longtemps. Ces conflits régionaux reflètent également les lacunes de processus de la démocratisation de la société espagnole après la fin de la période fasciste. Et la transition démocratique à la fin des années 70 n'a pas réussi à éradiquer l'héritage franquiste, notamment les dérives policières, la non-indépendance de la justice, l'impunité des politiques impliquées dans les affaires de corruption, etc. Donc, de ce fait, en Catalogne, l'aspiration à une vraie rupture démocratique s'est fondue dans le sentiment indépendantiste. Mais aujourd'hui, au nom de l'intégrité territoriale presque aveuglante, le gouvernement espagnol continue de refuser d'ouvrir la voie de négociation. Pourtant, c'est la seule issue possible de cette crise.
Et l'autre question cruciale en cas d'indépendance de la Catalogne, c'est l'avenir économique de la région. Pisay et Lucie l'évoquaient à l'instant. La Catalogne est la région la plus riche d'Espagne. Silvano Mendes, la rédaction brésilienne, vous êtes intéressé à cet aspect.
Oui, parce que même avant le référendum, le monde de la finance s'inquiétait déjà de cette possible indépendance de la Catalogne. Parce que même si les séparatistes insistent sur le fait que la Catalogne pèse 1/5 de la richesse espagnole et qu'elle représente, en tout cas sur le papier, une économie équivalente à celle d'un pays comme l'Irlande, il ne faut pas oublier qu'une bonne partie de cette vigueur économique vient elle aussi du fait que la Catalogne fait partie de l'Union européenne. D'ailleurs, actuellement, 70% des investissements étrangers en Catalogne proviennent des pays de l'Union européenne. Or, comme les efforts des autorités catalanes pour s'approcher de Bruxelles ces derniers mois n'ont pas vraiment abouti, il y a fort à parier qu'en cas d'indépendance, la Catalogne sortirait de l'Union européenne. Ce qui aura un impact certainement très négatif d'un point de vue économique pour les Catalans.
D'ailleurs, il y a déjà des entreprises, même des banques, qui ont annoncé leur départ en cas d'indépendance de la Catalogne.
Oui, alors effectivement, ces derniers jours, une quinzaine de sociétés ont décidé de délocaliser leur siège social à Madrid ou ailleurs, et pas des moindres. Dans la liste, il y a CaixaBank, c'est la troisième banque d'Espagne, la compagnie énergétique Gaz Natural, ou encore le gestionnaire des autoroutes Abertis, et même le parfumeur Puig, qui est propriétaire de Ninariti et de Paco Rabanne. À ces propos, nous avons interrogé l'économiste Alfredo Arauetes, professeur à l'université Comillas de Madrid, pour essayer de comprendre les motivations de ces sociétés. On l'écoute.
Muchas de ellas ya salieron. Ellas ya mudaron a lo mínimo a sede social.
Alors, que nous dit cet économiste?
Alors, il explique que plusieurs entreprises sont déjà parties, en tout cas, ils ont changé l'adresse de leur siège pour pouvoir se maintenir dans l'union monétaire, parce que si le gouvernement de la Catalogne déclare l'indépendance, elles ne pourront pas participer des politiques communes de l'union monétaire. Pour lui, c'est simple, c'est une question de survie qui va bien au-delà de la dimension politique. D'ailleurs, il dit même que parmi ces entreprises, il y a certaines qui sont favorables au principe de l'indépendance, mais elles savent que pour survivre en cas de séparation, il faut quitter la Catalogne. Donc toute la question est celle de savoir comment vivre d'un point de vue économique dans une sorte d'enclave indépendante au sein de l'Union européenne.
Il y a aussi un aspect qu'on néglige parfois, c'est celui de la dette catalane.
Oui, on avait évoqué, nos collègues ont évoqué le fait que la Catalogne est une des régions les plus endettées d'Espagne. Il faut savoir que pendant la crise économique de 2008, Barcelone a dû s'endetter auprès de Madrid avec des taux d'intérêt plutôt acceptable, sauf qu'en cas de rupture, Madrid pourra appliquer des taux d'intérêt beaucoup plus élevés. Et on estime déjà que la dette de la Catalogne, qui aujourd'hui s'élève à 1/3 du PIB de la région, pourrait tripler et atteindre 100% du PIB de la région, soit une situation équivalente à celle de la Grèce, qui n'est pas vraiment un exemple à suivre, comme on le sait.
La crise entre Madrid et Barcelone, que vous continuerez bien évidemment à suivre dans vos zones d'écoute respectives. Vous êtes toujours à l'écoute d'Accent du Monde sur RFI.
20
часов в Париже.
Paris, 20
Accent du Monde sur RFI.
Nathanaël Vitran.
Beaucoup d'inquiétudes ces derniers mois au Cambodge autour d'un sujet important, la démocratie. Après avoir enfermé le chef de l'opposition, Monsieur Kem Sokha, vous me corrigerez si je prononce mal, pour trahison début septembre, le gouvernement de Hun Sen déclare vouloir dissoudre le parti de l'opposition, le CNRP. Puis et même, que s'est-il passé depuis?
Oui, Monsieur Kem Sokha est bien en prison en attendant son procès. Il y a 2 semaines, Madame Moo Suk-hoo, parlementaire et figure respectable de l'opposition, a dû aussi fuir le pays pour échapper à une arrestation. On va l'écouter.
Alors, que nous dit-il?
Alors, Madame Moo Suk-hoo disait que le but du gouvernement de M. Hun Sen est de décapiter l'opposition en mettant en prison le leader avant l'élection législative. Elle ne veut pas laisser sa voix étouffée dans la prison, à l'instar de M. Kem Sokha. Donc, elle doit rester dehors pour continuer la lutte. Le 6 octobre dernier, le gouvernement a déposé une plainte devant la Cour suprême pour demander la dissolution du parti CNRP en vertu de la loi que le parti politique que le gouvernement lui-même a soigneusement rédigé. Donc ce n'est qu'une question de jour, Nathanaël. L'opposition au Cambodge est en voie de disparition.
Et puis il y a un projet de réforme de la loi électorale qui inquiète aussi la communauté internationale.
Oui, en effet, hier, les députés de PPC, c'est le parti du Premier ministre Hun Sen, ont déposé 4 projets de loi, parmi lesquels il y a un projet de réforme de la loi électorale. Cette réforme consiste à redistribuer les sièges de l'Assemblée nationale d'un parti dissolu aux autres partis. Cela veut dire que les 49 sièges de l'opposition seront distribués aux autres partis. Cette disposition est complètement absurde et antidémocratique. Donc, l'Union européenne et le Haut Commissariat des droits de l'homme ont prononcé leur inquiétude face à cette dérive répétitive vers l'autoritarisme du pouvoir de M. Hun Sen. Mais rien n'y fait. Ces derniers jours, le gouvernement cambodgien a multiplié des menaces contre toute tentative de manifestation ou de protestation. Donc pour le moment, le peuple cambodgien semble trop docile pour braver ce bras de fer.
Pisa Imam de la rédaction cambodgienne de RFI.
RFI, Radio France Internationale.
Au Brésil, depuis quelques semaines, plusieurs événements culturels ont été perturbés, voire annulés, accusés d'être inappropriés. C'est une affaire qui ouvre le débat sur la censure de l'art dans un pays encore marqué par les années de plomb de la dictature militaire. Une dictature en vigueur jusqu'en 1985. Silvano Mendes, vous êtes intéressé à ce sujet, à la rédaction brésilienne. Avant tout, quels ont été ces événements culturels attaqués et pourquoi ont-ils été source de polémiques?
Eh bien, tout a commencé au mois de septembre avec une exposition intitulée Queer Museo. Une exposition dont les œuvres évoquaient aussi bien la diversité sexuelle que des thèmes religieux et qui devrait ouvrir ses portes dans le musée de Porto Alegre dans le sud de Brésil. Alors, avant même l'inauguration, des groupes conservateurs ont accusé l'exposition de mettre en valeur la pédophilie, la zoophilie et de se moquer de christianisme. La pression était telle que les organisateurs ont décidé de mettre fin au projet.
Et c'était pas le seul cas?
Non, l'autre cas était celui d'une pièce de théâtre dans laquelle Jésus était incarné par une transsexuelle. Et là, encore une fois, la manifestation était annulée le mois dernier par décision judiciaire après des protestations des groupes catholiques. Mais le cas le plus récent et peut-être le plus emblématique est celui d'une performance d'un artiste brésilien qui apparaissait déshabillé dans un des plus importants musées de Sao Paulo. La polémique a commencé quand une vidéo diffusée sur Internet montrait une fillette et sa mère, qui assistaient toutes les deux à la performance, s'approchaient de l'artiste pour lui toucher les jambes. Ça a fait scandale, même s'il y avait bien une affiche qui prévenait les visiteurs de la teneur de la performance. Et la performance était accusée d'incitation à la pédophilie. Des manifestants ont ensuite essayé d'envahir le musée et l'artiste a failli être agressé.
Justement, comment les artistes ont-ils réagi à ces événements?
Eh bien, on crie clairement la censure, les artistes se mobilisent, contestent, critiquent. Une campagne a été lancée dans laquelle on voit plusieurs noms très connus du monde de l'art s'exprimer, comme le chanteur Caetano Veloso.
Ce qui est inacreditable pour moi, c'est que nous estejamos precisando discutir no século 21 censura às artes.
Alors il dit, ce qui est incroyable, c'est qu'on soit encore obligé de discuter au 21e siècle la question de la censure aux arts. Et vous savez, ce thème est très délicat dans un pays comme le Brésil qui a vécu 2 décennies de dictature militaire marquée par une très forte censure. Censure dont Caetano Veloso lui-même a été victime au point de s'exiler en Europe pendant les années de plomb.
Et Silvano, il y a aussi une dimension politique très forte derrière ces polémiques.
Oui, parce que le pays traverse un contexte politique assez délicat. Il faut savoir que la campagne contre l'exposition cuir musée a été menée par le mouvement Brésil Libre, le MBL, un mouvement qui était très actif lors des manifestations pour la destitution de la présidente Dilma Rousseff l'année dernière. D'ailleurs, et ça a commencé bien avant la destitution de Dilma, les mouvements conservateurs prennent de plus en plus de place dans la scène politique brésilienne, surtout par le biais d'un véritable lobby des églises évangéliques en pleine expansion dans le pays et très présente notamment dans la classe politique. Pour vous donner une idée, à Rio de Janeiro, un tiers des députés sont issus des églises évangéliques. Et ce sont les mêmes représentants de ces églises qui sont contre le mariage gay. D'ailleurs, certains défendent même la guérison de l'homosexualité. Et ce sont aussi ceux mêmes députés, pour certains d'entre eux, qui veulent maintenir l'interdiction de l'avortement au Brésil. Donc tout ça ne fait que renforcer cette sensation d'un retour en arrière de la société qui est très polarisée en ce moment, que ce soit du côté de la population que du côté des dirigeants.
Le conservatisme qui fait son retour au Brésil. Merci Silvano Mendes. On reste sur le continent sud-américain. Partons maintenant au Venezuela avec vous, Lucille Gimbert. Au début du mois, on fait le tour du net des photos qui ont suscité l'indignation sur les réseaux sociaux. Des photos de femmes en train d'accoucher sur les banquettes métalliques d'une salle d'attente d'un hôpital de l'état de Lara. C'est dans l'ouest du Venezuela. 7 personnes, des étudiantes et des employés de l'hôpital, ont été arrêtées, interrogées par la police, soupçonnées d'avoir divulgué ces images. Est-ce que ces photos illustrent les conditions réelles dans lesquelles ces femmes donnent vie dans cet hôpital, Lucille?
C'est en tout cas ce que nous a décrit une personne qui connaît de première main les conditions dans cet hôpital, le Pastor Oropesa. Ma collègue Aïda Palao a pu la joindre par téléphone pour des raisons de sécurité. Elle préfère rester anonyme, on l'écoute.
Las condiciones, como en el resto del país, se han visto bastante disminuidas por la situación de la.
Les conditions, comme dans le reste du pays, ont empiré ces dernières années. La population de la ville de Barquisimeto, où se trouve cet hôpital, a fortement augmenté sans qu'on en fasse le recensement. Et il n'y a que 2 hôpitaux publics, c'est ce qu'elle explique. L'hôpital Pastor Oropesa est donc dépassé par le nombre de femmes qui viennent accoucher. Le phénomène n'est pas mesuré, nous a-t-elle expliqué. Il est même interdit de parler des conditions de saturation de l'établissement. Mais elle estime, elle, que chaque jour, entre 5 et 10 femmes accouchent dans des conditions qu'elle appelle non aptes. Cela veut dire sur des chaises, des tables ou à même le sol, dans des positions qui comportent évidemment des risques pour elles et pour leur nouveau-né.
La cause de cette situation, Lucille, c'est la crise au Venezuela?
C'est une des causes, sans aucun doute. Au Venezuela cohabitent 2 systèmes de santé, le public et le privé. Dans le passé, une partie de la population pouvait accéder aux cliniques privées, mais avec l'inflation galopante et la crise économique qu'on connaît, ceux qui peuvent encore se payer des soins privés sont de moins en moins nombreux. Et dans les hôpitaux publics, tout manque, ou presque, et en particulier les médicaments. Les femmes sont donc contraintes d'acheter leurs médicaments à l'extérieur avant d'aller accoucher et viennent ensuite grossir les file d'attente des hôpitaux publics, car pour se payer une chambre dans une clinique privée, il faut débourser environ 10 fois un salaire minimum.
Et comment ont réagi les autorités vénézuéliennes à la divulgation de ces photos?
Vous le disiez au début, plusieurs personnes qui travaillent à l'hôpital Oropesa ont été arrêtées et interrogées par la police. Elles ont ensuite été libérées, sauf une employée de l'hôpital, que les autorités accusent toujours d'avoir pris ces photos. Selon l'ONG de défense des droits humains Fundpass, on ne sait toujours pas sous quel chef d'accusation elle est retenue. Et puis quelques jours après la divulgation des photos, la vice-ministre de la Santé, Linda Amaro, a fait une visite surprise à l'hôpital central de Barquisimeto. C'est l'autre établissement public de l'état de Lara. Elle a accusé cet hôpital, qui est géré par le gouvernement régional, d'opposition, de cacher et d'accaparer les médicaments et le matériel nécessaire pour les accouchements, obligeant ainsi les femmes à se diriger vers l'hôpital Pastor Oropesa, qui lui est géré par le gouvernement central. On voit bien donc que cette affaire reflète à la fois la crise sanitaire que vit le pays, le Venezuela, mais aussi la polarisation politique extrême de ce pays.
Et pourtant, le Venezuela est à la pointe en matière de législation contre les violences obstétricales.
Ah oui, c'est un sujet qui a animé le débat cet été en France et puis en Amérique latine. En Argentine, au Venezuela, il y a une loi pour garantir aux femmes le droit à un accouchement respectueux. Mais on le voit, au Venezuela, cette loi reste lettre morte dans la réalité.
Accent du monde, c'est terminé. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Lucille Jambert de la rédaction hispanophone, on va y arriver. Pisa Imam de la rédaction en langue cambodgienne et Silvano Mendes de la rédaction brésilienne de RFI. À la réalisation, il y avait ce soir Quentin Bresson. Merci à lui. Restez avec nous dans quelques instants. L'information revient sur Radio France Internationale.